Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 30. Paul nous dit dans l'Épître aux Romains que la nature nous révèle les perfections invisibles de Dieu. Évidemment, Dieu en lui-même est invisible, mais c'est vrai que quand on considère la nature, elle nous révèle que le Créateur fait des choses tellement parfaites que lui ne peut être qu'au-dessus de sa création. Elle nous dit aussi que cette nature nous révèle sa puissance et sa divinité. Et je crois qu'on a tous été des gens qui ont été émerveillés par la beauté du monde qui nous entoure, soit parce que nous avons eu la chance de les voir de nos propres yeux, soit au travers de photos qui nous éblouissent. Mais Dieu, dans son immense sagesse, n'a pas seulement permis que la nature nous enseigne sur sa personne, il nous permet aussi que la nature nous enseigne nous-mêmes. Proverbe, chapitre 30, tout le monde y est. Et on va voir qu'au travers de quatre animaux, le Seigneur nous demande de tirer des instructions pour nos vies. Proverbe, chapitre 30, verset 24. Il y a sur la terre quatre animaux. Il y a donc sur la terre quatre animaux qui soit sont petits et cependant des plus sages. Il nous est parlé. Verset 25. Les fourmis.
Oui, oui. Amen.
Un peuple sans force, sans puissance, mais qui prépare en été la nourriture. Les damans, c'est des sortes de marmottes. C'est un peuple sans puissance, sans agressivité, mais qui place leur demeure dans les rochers. Les sauterelles, qui n'ont point de roi, et pourtant quand elles sortent toutes par division. Et le lézard, qui saisit avec les mains, et se retrouve dans les palais des rois. Amen. Ce matin, nous aurons juste le temps de considérer la fourmi. Je me rappelle, il y a deux ans, on s'était servi de l'âne pour tirer des instructions, et je crois que j'avais dû terminer la prédication du genre « Soyez des ânes », quoi. Mais je pourrais renouveler la même invitation en introduction, en nous invitant à être des fourmis. Alors c'est vrai que là aussi, hein, ça peut paraître peu enviable d'être une fourmi, et pourtant il y a là. Et c'est ce que la Bible nous demande de considérer. Effectivement, les animaux que nous avons évoqués sont faibles, ils sont sans force, mais pourtant ils font partie des plus
sages.
Des plus sages. Il nous est parlé des fourmis comme un peuple. Qu'est-ce qui fait un peuple? Qu'est-ce qui fait que une communauté fait un peuple, forme un peuple? Ils ont une histoire commune. Il y a une notion d'unité. Et il y a une notion de culture. Un peuple, il a une histoire, il a une culture commune. Et n'est-ce pas, effectivement, là aussi, une grâce extraordinaire? Nous faisons partie du peuple de Dieu.
Amen.
C'est extraordinaire de s'apercevoir que lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus dans sa vie, où que l'on soit, qui que l'on soit, que ce soit riche, pauvre, que l'on ait grandi à Ancenis ou à Johannesburg, nous avons tous une même histoire. Une rencontre, une expérience personnelle qui, malgré les circonstances, est commune lorsqu'on se retrouve avec d'autres croyants, d'autres hommes et femmes qui ont rencontré le Seigneur Jésus, même si culturellement tout pourrait nous séparer. Nous faisons partie d'un même peuple parce que nous réalisons que nous avons une même histoire, une même culture, une même identité, une même aspiration. Un désir d'être dans la présence de Dieu, un désir de partager des valeurs spirituelles. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le peuple de Dieu. C'est qu'il n'y a plus question de race, de couleur de peau, même plus question d'âge, pas question de riche ou de pauvre, d'être occidental ou oriental, d'être du nord ou du sud. Nous formons un même peuple, parce que nous avons la même histoire, et les mêmes expériences, et la même culture, celle du royaume de Dieu. Soyons des fourmis, et louons le Seigneur de faire partie d'un peuple. Un peuple que la Bible définit comme étant sans force. Je sais que j'ai un caractère un peu sadique, mais je voudrais juste sonder un peu l'auditoire. Ça vous est jamais arrivé d'écraser une fourmi, vous ? Mais volontairement, hein, entre vos doigts, là. Non ? Les enfants, vous avez jamais arraché les...
Ouais.
Ne me dites pas que vous avez jamais joué avec une fourmilière, alors qu'ils se sont fatigués de travailler des jours et des nuits, et nous on arrive là en 2 minutes, boum 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 boum. Franchement, une fourmi ça vous a mordu, mais ça vous a jamais tué. Reconnaissons qu'une fourmi, c'est rien, c'est insignifiant, c'est tout petit, c'est sans force, c'est sans capacité. Ça pèse combien une fourmi, dites-moi? Pas grand chose. Pourtant, vous savez, l'évaluation que Dieu a sur les choses est complètement différente que la nôtre. S'il existait une balance extraordinairement grande pour mettre d'un côté tous les êtres humains, elle est grande la balance, hein, et que nous devions mettre de l'autre côté toutes les fourmis, la balance pencherait du côté des fourmis. Vous vous rendez compte ? La masse de toutes les fourmis du monde est plus grande que la masse de toute l'humanité. Oh, c'est rien, une fourmi ! C'est faux. C'est faux. Parce qu'elles sont tellement nombreuses qu'en réalité, elles sont bien plus nombreuses et bien plus lourdes et bien plus puissantes et bien plus énormes que tous les êtres humains réunis ensemble. Ne nous laissons pas intimider par ceux qui voudraient nous faire croire que nous ne sommes rien, que nous sommes insignifiants, que nous sommes sans force, que nous n'avons aucune valeur sur ce monde. C'est faux. Un homme, une femme avec Christ est bien plus lourd spirituellement, a bien plus de poids, bien plus de valeur qu'un homme vide des vanités de ce monde. Oui, le monde est plein. Plein de richesses, plein de convoitises, plein de mondanité. Mais toutes ces choses vont l'emmener à sa part. Soyons vides. Ou rempli d'air, rempli du Saint-Esprit, amen. Oh, ça ne pèse rien à l'estimation de l'échelle humaine. Mais quelle force, quelle grâce. Il vaut mieux être plein de l'Esprit de Dieu et avoir l'accès au ciel, à la vie éternelle, au paradis, que d'être soi-disant riche, puissant, lourd, imposant. Les choses de ce monde qui ne mènent qu'à la ruine. Il y avait un homme comme ça qui... T'es tellement accroché à ces sacs d'argent qu'un jour, lorsqu'il était ballotté dans une tempête et que tout le monde a dû se délester de ses biens, lui, non, non, moi je m'accroche à mes sacs de pièces d'or, non, 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 mais on lui disait, mais j'ai la clé, on va perdre, on va couler, non, moi je m'accroche. Ils ont tous été sauvés sauf lui, parce qu'il était entraîné vers le bas de la mer avec ses sacs d'or. Oui, bien sûr, les fourmis sont sans force. Nous aussi, nous sommes, à vue humaine, insignifiants, sans poids. Vous êtes qui ? Vous croyez en Dieu, vous ? Oui. Oh, on est peut-être méprisés. Mais l'Esprit qui est en nous nous élèvera dans la voie spirituelle. Un peuple sans force ? Parce qu'effectivement, nous sommes peut-être sans moyens, sans richesse, sans ces capacités qui viennent de l'intelligent, du secours, des pronostics, des appuisants humains. Mais qu'importe. Qu'importe. Dieu dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais que c'est par son esprit seulement qu'il agit. Amen. Gardez vos chars. Gardez vos fusils. Gardez vos systèmes politiques, gardez vos techniques, gardez vos comptes en banque. Nous préférons nous appuyer sur l'Esprit de l'Éternel. Amen. Ne nous laissons pas influencer, et je dirais même, ne nous laissons pas remis en question. Il y a même des fois, il pourrait se glisser dans notre cœur une sorte d'envie et lui il a ça, et lui il a ça, et moi dans ma vie qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai bâti? Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas de posséder, ce n'est pas d'avoir la force, ce n'est pas de devenir quelqu'un. Oh, et lui, son nom est déjà connu, qu'importe mes bien-aimés. Que votre nom soit connu par Dieu, ça a de l'importance. Amen. Que l'Esprit de Dieu soit votre force, ça a de l'importance. Amen. Il écrit en 1 Jean chapitre 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il est parlé de Jésus, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu a le pouvoir de faire de lui un enfant de Dieu. Lequel est né, non par le sang, ni par la volonté de la chair, mais par la volonté de Dieu. » Amen. Il y a une volonté de Dieu, c'est de pouvoir agir dans notre vie. Et ça, cela ne relève pas de la puissance persuasive des hommes, cela ne relève pas de la chirurgie, cela ne relève pas de la psychanalyse, cela relève de l'action de l'Esprit de Dieu dans un homme, dans une femme. Là aussi, il y a un point commun avec les fourmis. Parce que la fourmi se développe par métamorphose. Vous connaissez l'histoire de la chenille qui devient un papillon?
Oui.
Eh bien, il en est de même pour la fourmi. Elle connaît même une troisième étape. Au début, la fourmi, c'est un œuf. Et puis de l'œuf, elle devient une larve. Une larve. C'est en gros la fourmi, mais sans les pattes. Et puis après, elle devient une fourmi tout à l'accompli. Veillons, mes bien-aimés, à apprendre aussi à nous développer par métamorphose. Il faut, c'est Jésus qui le dit, il faut naître de nouveau.
Amen.
Il faut devenir une nouvelle créature. Si tu es toujours dans l'état d'œuf, si tu es toujours dans un état là, indescriptible, que tu es dans ton petit cocon, que tu es perdu, que tu es étriqué avec toi-même, que tu n'y vois rien, alors il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu sois transformé. Il faut que tu passes d'une étape à une autre. Il ne suffit pas de passer un coup de vernis sur la coquille. Il ne suffit pas d'avoir un gros œuf ou un petit œuf. Il ne suffit pas de mettre de la dorure sur l'œuf pour que l'œuf change. Il faut que tu sois quelqu'un de nouveau. Seigneur, transforme-moi. Fais-moi naître de nouveau. Fais-moi sortir de ma petitesse. Je veux vivre. Je veux voir. Je veux exister. Je veux ressentir les choses. Mais si nous sommes nés de nouveau, avouons que nous avons besoin encore d'être renouvelés. Reconnaissons que nous avons besoin d'être transformés, renouvelés, régénérés. Comme on l'a dit la semaine dernière, soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Nous avons besoin. Non pas de dire, oh, en 1815, je suis né de nouveau, je me suis fait baptiser par le pasteur. Mais on s'en fiche de ça. Les choses anciennes, c'est bien. Mais par l'Esprit, les choses deviennent nouvelles.
Amen.
Et c'est chaque jour que Dieu renouvelle ses bontés. Non pas pour rester là, enraciné dans une position, mais pour que nous tendions à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous avons besoin de revenir à la croix. Nous avons besoin de nous repositionner. Nous avons besoin de réclamer, Seigneur, transforme-moi. Tu m'as délivré de mes péchés. Amen. Je suis né de nouveau, c'est vrai. Mais j'ai tellement besoin encore de renouveler ma vie, ma vigueur, ma foi, mon zèle, mon énergie, mon attachement à ta parole, ma vision pour les âmes. Soyons des fourmis et développons-nous par métamorphose. Un peuple sans force, mais un peuple qui a colonisé le monde entier. Il y en a beaucoup, hein, des hommes qui ont souhaiter régner sur le monde entier. Il y en a. On va pas passer l'histoire en revue, mais quel carnage. Dans le seul but de dominer sur le monde entier. Les fourmis, sans force, sans armes, sans rien du tout, ils sont partout. Il y a deux exceptions, ils sont pas en Antarctique ni au Groenland. Donc si vous voulez y aller. Mais c'est quand même incroyable. Ils sont partout. N'est-ce pas là la vocation du peuple de Dieu? C'est ce que Dieu fait, il nous émence, il nous émiette, il nous ensemence un peu partout, mais dans le but que partout il puisse y avoir le témoignage de l'œuvre de Dieu, et que là où nous soyons, nous puissions bâtir des fourmilières.
Alléluia.
Allez de par le monde, dit Jésus, prêchez la bonne nouvelle. Déjà dans ta maison, et puis dans ton bourg, et puis dans le village d'à côté. Et puis si t'as encore de l'énergie jusqu'aux extrémités de la terre, allez-y, soyons des fourmis, répandons-nous, construisons des fourmilières. Oh, peut-être que le monde n'y verra pas clair. Ils diront, ouais, bah, les chrétiens, ouais. Mais ça arrive de temps de discuter avec des gens. Ah bon, vous êtes des chrétiens là? Ah, vous êtes là aussi? Ah, mais on savait pas. C'est pas grave que vous le sachiez pas. Mais soyons des fourmis, travaillons à la propagation du peuple de Dieu sur toute la surface de la terre. Sans force! Mais non, vous êtes rien du tout. C'était déjà ce que l'on disait des apôtres. Paul le disait. On est considéré comme pauvres, mais nous en enrichissons d'autres. Amen. Nous sommes considérés comme comme tristes, mais oui, parce qu'il y a de la peine, mais nous sommes toujours joyeux. Amen. Nous sommes considérés comme morts, pourtant nous communiquons la vie. Amen. Vous êtes un peuple sans force, qu'importe. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a en nous. Amen. Qu'importe, le monde nous jugera toujours comme étant des fourmis méprisables qu'ils croient qu'ils pourront écraser. Qu'ils nous écrasent. C'est pas ça. Notre but en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas d'exister aux yeux du monde. Mais c'est d'avoir la réalité de cette vie cachée, profonde, avec le Seigneur. Amen. Un peuple dont il est dit que c'est un peuple sans force, mais qui prépare sa nourriture. Si effectivement Dieu ne nous demande pas d'être puissant aux yeux du monde, par contre il est vrai que le Seigneur nous demande d'être comme les fourmis, unis et actifs dans le travail.
Amen.
On a tous vu des fourmis. Mais est-ce que vous avez beaucoup vu beaucoup de fourmis avec un parasol sur l'épaule, la serviette de l'autre côté, le maillot de bain, bon, on t'a dit, allez copains, je vous laisse bosser, moi, je suis en RTT aujourd'hui. Non, elles sont toujours en train de bosser. Toujours. Défoncer la fourmilière, c'est pas grave, le lendemain, elle recommence et elle travaille. Jamais décourager. Jamais. En vacances. Oh là là, quelle vie! Elles ont quelque chose de profondément inscrit dans leur identité. C'est qu'une fourmi ne vit pas pour elle-même. Elle vit pour sa vocation de travailler pour son royaume à elle. Son royaume, c'est la fourmilière. Et elle te prépare. Elle prépare. Elle prépare. Elle sait que c'est dans elle. C'est dans ses gènes. N'oublions jamais que le Seigneur nous a sauvés et nous maintient sur cette terre pour que nous travaillions à cette vocation.
Gloire à Dieu.
Si le Seigneur nous a sauvés et que nous mourrons le lendemain, c'est qu'il avait besoin de vous en haut, même si la notion besoin est très superficielle. Mais si Dieu nous sauve et nous maintient encore avec le souffle de vie et la capacité de marcher, c'est pour que nous bâtissions son royaume.
Amen.
Oh Père, que ta volonté soit faite au ciel. Sa volonté, c'est que nous travaillions à bâtir son royaume. C'est la seule vocation d'être. Et de temps en temps, on peut se demander si nous n'avons pas perdu cette vision du travail pour le royaume des cieux. Je dis bien perdre la vision du travail pour. Parce que on pourrait de temps en temps se demander si le critère n'est pas plus le confort que l'avancement du royaume des cieux. Si le programme m'intéresse, alors oui, je suis là. Je coche, ça me plaît moins. Ouais, mais là, j'ai autre chose à faire. Ah, si c'est ça, oui. Je n'ai jamais vu une fourmi commencer à discuter. Oh là là là, là tu me demandes d'aller là, mais moi j'ai... Une fourmi travaille. Parce qu'elle sait que c'est son but, c'est sa raison d'être, c'est sa raison d'exister. Permettez-moi de vous dire et de vous rappeler qu'il n'y a pas d'épanouissement dans la vie d'un chrétien s'il n'est pas au travail. Parce que notre raison d'être, c'est de travailler pour le royaume des cieux. Si nous sortons de ça et que nous croyons en cultivant une sorte de compromis, de confort, de paresse spirituelle, de « oh ben non, mais il faut bien que je prenne soin de moi », c'est là qu'il y a ce non-sens, ce vague à l'âme intérieur, ce déséquilibre qui fait que « oui, je t'aime Seigneur, mais il manque quelque chose, mais oui, il te manque quelque chose, parce que tu n'es pas à la place, tu n'es pas là, au poste auquel tu devrais être ». Veillons à ce que de fourmis nous ne devions non pas un œuf, mais que nous restions dans notre position de fourmis, travaillant, préparant. D'ailleurs, il est dit au Proverbe chapitre 6, verset 6, « Va vers la fourmi paresseuse, vas-y !» Si tu veux être assis à regarder quelque chose, bah au moins que assis-toi et regarde les fourmis. Mais bien même le nez dans la poussière, regarde. Et considère ses voies. Réfléchis à ses voies. Regarde cette petite fourmi qui fait ses allées venues, qui croit ses collègues. Réfléchis, considère ses voies et deviens sage. Il n'y a pas de sagesse dans la paresse. Il n'y a pas de paresse. Il n'y a pas de sagesse. C'est-à-dire, oui, non, il ne faut pas trop parler du Seigneur, vous savez, il faut être sage. Le Seigneur nous demande d'être prévoyants. Surtout à la fin des temps. Vous connaissez cette parabole des 10 vierges? 5 sages, 5 insensés. Et en quoi leur manquait-elle de la sagesse? Parce qu'elles n'avaient pas préparé de l'huile en réserve. Faisons tout de suite l'application spirituelle. Il leur manquait de la vigueur spirituelle. Il leur manquait cette connexion au Seigneur. Oui, elles avaient entendu parler du mariage. Elles voulaient bien y participer. Mais elles n'avaient pas de réserve. Faisons attention, mes bien-aimés, de ne point vivre sur nos réserves. Mais soyons renouvelés, remplis de l'huile.
Alléluia.
Faisons attention. On a sur nos voitures, normalement, quand ça marche bien, une sorte d'évaluation de la jauge, de réservoir. Quand c'est plein, on sait qu'on est tranquille. Et puis quand il y a le voyant commence à s'allumer, on dit « oh, oh, oh ». Si je ne fais pas le plein, je risque d'être à l'arrêt. Mais soyons honnêtes avec nos propres cœurs.
Amen.
Avec notre propre âme. Sachons évaluer. Et personne ne peut le faire, ni votre pasteur, ni votre époux, ni vos enfants. Il n'y a que nous qui sommes capables d'évaluer notre cœur et savoir si nous sommes sur la réserve ou si nous avons si nous sommes sur le réservoir ou si nous avons véritablement encore de ce capital spirituel en nous. Lorsqu'il n'y a plus la vigueur, quand il n'y a plus l'amour, lorsqu'il n'y a plus la joie, qu'on n'a plus l'enthousiasme pour l'œuvre de Dieu, qu'on n'y a plus l'attachement de la parole de Dieu, quand on prend plus de plaisir aux choses d'en haut, aux choses d'en bas que des choses d'en haut, alors nous sommes sur une réserve peut-être trop dangereuse. Et peut-être que lorsque le Seigneur reviendra, on sera tellement pris qu'on n'y pensera même plus. Rien n'aura été préparé pour le retour de notre Dieu. Les fourmis, c'est vraiment un peuple travailleur. Sans cesse. Ils travaillent sans cesse. Sans cesse. Mais lorsqu'on lit l'Écriture, on s'aperçoit que Dieu nous appelle aussi au travail et dans de nombreux domaines. Je n'ai pas voulu sortir tous les passages où il est écrit « travailler, travailler, travailler », mais à tous les lire, moi j'étais fatigué à les lire, quoi. Mais dans tous les domaines, alors évidemment, travailler pour subvenir à nos besoins, ça fait partie de nos obligations. De Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, mais si nous restons sur un domaine spirituel, la parole de Dieu nous demande de travailler à notre salut. De développer ce salut, comment? Par la sanctification. Parce que nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Que personne ne puisse s'imaginer qu'en vivant dans le péché, il sera sauvé. Ce n'est pas l'Église qui sauve. C'est la sanctification.
Amen.
Associée à la foi. La sanctification témoigne de notre foi. Seigneur, tu es pur, Seigneur, tu es vrai, Seigneur. Mais moi, je vis dans la boue, je pêche, je mange, je fume, je bois, je parle mal aux gens. Mais Seigneur, tu m'aimes. Mais oui, il t'aime, mais il n'aime pas ta manière de vivre. Donc il faut que tu changes.
Seigneur, donne-nous, selon Philippiens 2:12, de travailler à nos sanctifications.
De travailler à la communion fraternelle. Il nous est parlé dans, en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 27, au 1 Thessaloniciens chapitre 1, 3, pardonnez-moi, 1 Thessaloniciens 1, 3 pour ceux qui prennent des notes, pardon, pour ceux qui veulent je pourrais répéter. Il nous est parlé du travail de notre amour. Ah bon, il faut travailler à l'amour. Mais quand on aime, tout se fait tout seul. Mon œil. Il faut travailler à l'amour. Il faut faire de l'effort. Il faut prendre soin. Il y a de l'énergie, il y a du renoncement. Il y a de la peine à aimer son prochain. Parce qu'on ne peut pas toujours vivre sur un domaine sentimental. Et l'amour, c'est un engagement.
Amen.
Alors, Paul nous dit, travaille à l'amour. Travaille à l'amour. Travaille à la communion fraternelle, mais travaille également au salut des âmes. Travaille au salut des âmes. Paul disait qu'il était dans le travail et dans la peine pour le salut des âmes. Bien sûr que c'est pénible de travailler. Bien sûr que c'est pénible de travailler pour le salut des âmes. Parce que ça nous nécessite de l'organisation, de la stratégie, de nous lever, de peut-être même de se prendre des coups. Mais on accepte bien ces choses quand on va travailler pour notre salaire. Dès qu'il y a une contrariété, on commence pas à dire « Oh ben non, si c'est comme ça, hein. Moi je rentre chez moi. Hein. » On va vous dire une fois, deux fois oui, après on va vous dire « Pas la mettre de revenir. Hein. » Mais on accepte des coups, on accepte la fatigue, on accepte parce qu'on sait qu'on est engagé par un contrat dans un travail. Alors, dans le but d'avoir une rémunération. Mais honnêtement, nous aurons aussi une rémunération, le Seigneur nous le dit. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail. Il nous promet une récompense. Mais travaillons, n'ayons pas peur de la peine. De travailler à l'édification de l'Église. Colossiens chapitre 4, verset 11. Travailler pour le royaume de Dieu. Je sais que c'est la période des vacances, c'est peut-être pas le thème adéquat. Mais réalisons que même les fourmis travaillent en ce moment.
Amen.
Et la parole de Dieu nous demande de considérer les voies de la fourmi et de devenir sage. Est-ce que cette semaine, j'ai travaillé dans ces domaines? Est-ce que cette semaine, j'ai fourni des efforts dans la relation avec Dieu? Est-ce que cette semaine, j'ai travaillé à la communion fraternelle? Est-ce que cette semaine, j'ai travaillé à prendre soin, à appeler un frère, une sœur, à construire quelque chose? Est-ce que cette semaine, j'ai travaillé, je me suis peiné, je me suis engagé dans l'objectif de parler du Seigneur à quelqu'un? Un peuple qui prépare, et qui prépare la nourriture. En fait, le boulot d'une fourmi, c'est de se balader. Et dès qu'elle trouve une source de nourriture, hop, elle en prend ce qu'elle peut et elle ramène. Alors évidemment, c'est toute une logistique en fait. C'est toute une logistique, c'est comme la mission que le Seigneur nous a demandé, qui est de prêcher l'évangile. Eh bien, n'empêche qu'on s'aperçoit qu'un bâtiment c'est pratique, un micro c'est pratique, des chaises c'est pratique. Enfin, il y a toute une logistique qui se met autour d'un but. Le but de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile pour que les gens soient sauvés. La vocation de la fourmi, c'est de chercher la nourriture. De chercher la nourriture. Et là, je voudrais juste parler avec vous de l'organisation et de la communication des fourmis. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'était le mois dernier, je crois. On était à la maison et on a vu deux petites fourmis qui se baladaient. Tiens, une fourmi, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Fini. On dort tranquille. Et le lendemain matin, la panique dans le sucrier. Mais elles venaient d'où toutes ces fourmis? Oh là là là, j'ai encore continué, hein, mais là j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, elles viennent d'où et tout? Elle passait par un trou. Comme je suis un garçon intelligent, je fais quoi? Ça vous est arrivé aussi? Je bouche le trou, je dis chérie, c'est fini. fier de moi. Deux jours après, deux petites fourmis. Bah, qu'un feu que les fourmis. Avec un peu de tremblement quand même. Fini, t'inquiète chérie, c'est résolu. Je sais pas par où ils sont passés, mais là, ils vont plus vivre. Hein. La panique le lendemain matin. Encore dans le sucrier, à foison, c'est pas possible. Alors je regarde, je retrouve le deuxième trou. Et ça nous a passé pendant 3 semaines comme ça. Parce qu'elles étaient filoutes. Elles passaient sous la moquette. Elles avançaient, elles ressortaient par le trou de la plainte et elles continuaient leur chemin. Alors j'avais beau boucher, elles voyaient toujours le trou un peu plus loin. Et là je me suis dit, mais c'est trop fort quand même une fourmi. Comment c'est capable? Elles sont à 2, elles finissent par être 50. Et en fait, il faut comprendre leur organisation. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire pour leur fonctionnement. Mais c'est le modèle que le Seigneur nous demande d'avoir. Amen. Ce qui est extraordinaire dans l'organisation d'une fourmi, dans le monde des fourmis, c'est qu'il n'y a aucun chef qui dit à la fourmi ce qu'elle doit faire. Aucune. Les reines sont là pour pondre. Mais elles ne donnent pas d'ordre. Elles ne disent pas, tiens, toi, là, tu vas aller gauche. Non, non, non. En fait, on parle, quand on parle des fourmis, d'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est le fait que chacune, consciente de son devoir, aller chercher de la nourriture, va dans cet objectif, vit pour cet objectif, et va communiquer ses informations à d'autres, qui elle-même étant animée de la bonne, même bonne volonté, même objectif, va s'associer à cette fourmi copine pour aboutir au résultat. Et comment ça fonctionne? Parce qu'on se dit, elles sont deux, elles finissent par être 50. Je sais pas, elles ont un super réseau téléphonique, elles, ou... Non, même pas Internet, rien du tout. Mais comment elles font? En fait, la fourmi, quand elle repère un coin, enfin le sucrier, quoi, elle commence à se projeter sur son corps, ce qu'on appelle des phéronomes. Bref, une sorte de produit chimique sur elle. Et quand elle est au contact de 2-3 autres fourmis, les autres chopent ce produit chimique et décodent « Oh, copine, elle a trouvé du sucre là-bas, on va y aller. » Les 2-3 y vont, elles repèrent le filon, elles disent « Waouh, trop bien le sucrier des gigas. » Et chacune se met un peu de produit. Et quand elles recroisent les fourmis, ainsi de suite. Et en fait, si nous réalisons la chose, une fourmi repère, communique l'info à 2-3 fourmis, et chacune communique l'info à 2-3 fourmis, qui chacune communique à... Ok? Et c'est ainsi. Quand en moins d'une nuit, vous n'avez plus de sucrier. Parce qu'elle fonctionne comme ça. La communication n'est pas la générale, mais c'est quasiment du un par un. Mais bien aimé, personne ici n'a le mandat de sauver le monde. Personne n'a le mandat ici d'annoncer l'évangile à tout Anceny, à lui tout seul. Mais le Seigneur nous a donné une technique toute simple. Va vers ton prochain, annonce-lui l'évangile. Annonce-le à ton deuxième voisin, à ton troisième voisin. Que nous puissions développer une mentalité de gagneur d'âme. Non pas du monde, mais que nous puissions garder dans notre cœur 2-3 âmes, un objectif précis. Essayons, non pas de les sauver, ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est le Seigneur qui le fait. Mais nous avons pour vocation de leur montrer le chemin, de leur indiquer la source de la bénédiction, la source de la nourriture, là où leur cœur sera rassasié, et que nous puissions fixer cet objectif, non pas seulement de leur indiquer, mais de les accompagner sur le chemin. Parce que dans cette substance chimique, il est dit, oui, il y a un super sucrier qui est plein. Mais en plus, je connais le chemin le plus court. C'est ça qui est extraordinaire. Elles ont même, dans leur programmation, un système qui leur donne déjà la route le plus court, le chemin le plus simple et le plus accessible pour arriver à cette nourriture. Et c'est ça notre vocation en tant que chrétien. Il ne suffit pas de dire, oh, tu sais, hein, Jésus t'aime, il veut te sauver. Au revoir. Non, il faut les prendre avec nous pour les mettre sur le chemin et les accompagner. Faire marche avec elles. Certains auront besoin qu'on leur tienne la main, d'autres qu'on aille les chercher en voiture. D'autres se contenteront juste d'une adresse et de notre présence là où on les aura invités. Mais il faut s'adapter à chacune. ce qui est extraordinaire dans le monde des fourmis, c'est qu'elles ont des capacités différentes. Il y en a, elles sont pondeuses, ok? Mais il y en a, c'est des guetteuses. Il y en a net, c'est des espionnes. C'est des repéreuses. Il y en a qui sont des découpeuses de feuilles. Voilà, si vous cherchez un emploi, postulez, je voudrais être découpeur de feuilles. Ah bah là, vous allez, je suis la termitière, là, vous allez voir. Il y en a qui sont tisseuses. D'ailleurs, il y a une très belle illustration. Ça s'appelle les fourmis tisserands, je crois, de tisser. En fait, elles ont la fonction, elles, la capacité en fait, de fabriquer leur nid dans les feuilles. Donc, on a tous une feuille, c'est plutôt plat. Et pour fabriquer le nid, il faut les rapprocher et puis tisser. Alors, et c'est là qu'on voit la notion d'intelligence collective. Quand il y a une fourmi qui dit, tiens, là, ce serait bien qu'on fasse une chambre. Elle monte sur la feuille. Elle se met à l'extrémité de la feuille. Et elle s'accroche à la feuille. Qu'est-ce qui se passe? Bah, pas grand-chose, hein. Parce que vu le poids de la fourmi sur la feuille, alors elle reste accrochée comme ça. Elle dit, ouais, et alors? Mais les copines, elle dit, oh, il y a Jeannette qui veut construire là. Alors, on y va. Et elle s'accroche toute elle. Et au bout d'un moment, la feuille, elle fait quoi? Elle finit par fléchir, ça se plie, elle couse, et on passe à autre chose. C'est beau, non? C'est ça l'intelligence collective. Wow. Et c'est ça le modèle sur lequel nous pouvons nous appuyer en tant qu'enfants de Dieu. Si nous travaillons tous pour le salut des âmes, alors nous mettrons chacun nos talents, nos capacités, nos disponibilités au service de l'œuvre de Dieu. L'une coupera les feuilles, l'autre les assemblera, l'autre sera juste là peut-être pour faire contrepoids, pas plus lourde, sympa, very bien. Mais toutes n'attendent pas qu'on leur dise ce qu'elles ont à faire, mais conscientes de l'œuvre à faire, elles s'unissent dans cette vocation. Amen. Que le Seigneur nous donne d'aller chercher les âmes. Que le Seigneur nous donne de nous unir les unes aux autres pour que nous puissions non pas servir une reine, mais que nous puissions servir le roi des rois. Amen.
Amen.
Et que par le Saint-Esprit, nous soyons tous animés d'un même esprit, d'un même langage, d'une même pensée. Et alors ce ne sera pas un pasteur, un coordinateur qui nous donnera de l'intelligence, mais ce sera le Seigneur lui-même. Amen.